Bonjour, bienvenue dans 7 jours dans le monde. Retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Mossoul. La bataille contre l'État islamique s'annonce-t-elle plus difficile que prévu ? Idlib, le nord-ouest de la Syrie. Qui a bombardé l'école tuant 20 enfants ? Quetta, dans le Pakistan. Au Pakistan, Quetta, avec un attentat sanglant contre une académie de police. Washington, à 10 jours du scrutin à Donald Trump. Il prédit une surprise digne du Brexit. Et puis, Namur, enfin, capitale de la Wallonie, qui pour certains, eh bien, défie l'Union européenne autour du CETA. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Olivier Zajac, bonjour.
Bonjour.
Maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre et auteur, ça vient de sortir, Introduction à l'analyse géopolitique, histoire, outils, méthode, avec beaucoup de cartes, beaucoup de graphiques comme je les aime, justement. C'est un peu la géopolitique à l'heure des mutations, des contextes géostratégiques, géoéconomiques. C'est un livre pour les étudiants, mais aussi pour le grand public. Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Frédéric Ancel, professeur de relations internationales à Paris Business School, à Sciences Po Paris. Et on le rappelle, hein, c'est sorti en début de mois avec Yves Lacoste. Hein, géopolitique de la nation France. Oui, géopolitique de la nation France, pour tout comprendre également sur toutes les réflexions en cours en ce moment dans la société française.
Oui, aux presses universitaires de France, à la fois sur la société française, sur la lutte nécessaire contre l'islamisme radical et ses idiots utiles, mais également sur les affaires internationales, puisque la France est encore, il faut le dire, une vraie grande puissance.
Et justement, et on commence avec l'Irak, bien entendu. L'offensive sur Mossoul, lancée le 17 octobre sur trois fronts, se poursuit. Plutôt rapidement, les villageois libérés racontent le calvaire qu'ils ont subi sous l'occupation islamiste. Les soldats irakiens, les soldats kurdes ont fort à faire face aux pièges, face aux attaques suicides, les snipers également, avec l'État islamique qui massacre ça et là des civils, qui prend en otage des habitants comme boucliers humains. Les djihadistes qui ont largement eu le temps de se préparer en creusant des tunnels, ce qui retarde quelque part la progression. Bataille difficile, confirmation avec Jean-Yves Le Drian.
Cette bataille sera difficile, elle sera longue. La ville est très importante et nous avançons progressivement, mais avec le respect de la planification initiale.
Voilà le ministre français de la Défense. Frédéric Ancel, c'est plus difficile que prévu ou alors c'est conforme à ce qu'on attendait de Daesh avec des combattants, des terroristes, des djihadistes, de toute façon, qui savent qu'ils vont mourir de toute façon? Ils n'ont pas l'intention de céder le terrain facilement.
Et qui veulent mourir. Ils ne veulent surtout pas montrer qu'ils subissent une défaite. Je veux dire par là que Daesh fait et fera tout pour éviter qu'on puisse montrer des prisonniers. Alors d'une part, ils se font exploser, mais ça, ils le veulent, ils le souhaitent. Je rappelle que l'islamisme radical, là-dessus, est parfaitement clair. Cette vie ici-bas est une vie de pourriture, de zina, de takfir, autrement dit de renégatitude, comme dirait l'autre. La vraie vie, elle est ailleurs. Au paradis, et le paradis, en tant que shahid, on l'obtient, ce paradis, en mourant bien sûr, en suicidant, mais en suicidant dans une scénographie qui entraîne bien évidemment les ennemis dans la mort.
Donc non seulement... Pierre Servant qui vous racontait la semaine dernière ces espèces de camions un peu redesignés à la Mad Max, avec des tôles, un amas de tôles, et on a vu encore cette semaine des vidéos épouvantables avec ces camions qui foncent justement sur des positions kurdes, avec des explosions, évidemment, ça fait pas de blessés.
Voilà, donc et ça fait pas de prisonniers de Daesh. Donc du coup, c'est quelque chose auquel vraisemblablement tout le monde s'attendait, plus que vraisemblablement, et Jean-Yves Le Drian l'a très bien rappelé. Donc des tunnels, des attentats de type kamikaze, c'est pas très nouveau, mais surtout le vrai problème, ça va être la population civile. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans Mossoul, une ville arabe qui par conséquent ne va pas accueillir les kurdes à bras ouverts, une ville sunnite qui par conséquent ne va pas accueillir à bras ouverts les chiites qui sont en train de tenter de la libérer puisque les chiites constituent l'essentiel de l'armée irakienne, ça va être compliqué. 1 million à 1,5 million de personnes encore sur place, des quartiers à l'ouest de la ville qui sont très enchevêtrés, la vieille ville en quelque sorte, dans laquelle vont se battre comme des chiens les gens de Daesh. Et quand bien même on reprendrait la ville sans faire trop de dégâts chez les civils, donc en tapissant pas de bombes évidemment par exemple la ville, eh bien une fois que ce sera terminé, qui vous dit qu'il n'y aura pas une guérilla urbaine de la part de gens de Daesh qui se seront fondus dans la masse.
Et ils commencent déjà à se raser justement, à revenir avec des habits
la dissimulation, la taqiya
traditionnelle. Hein, près de 1000 d'entre eux, de ces djihadistes, auraient été tués. Voilà ce que révélait cette semaine un général américain. Ils vont mourir, donc ils se battent par tous moyens. C'est quoi la stratégie en face, Olivier Zajac, des combattants qui veulent reprendre Mossoul?
La stratégie, c'est tout simplement essayer de minimiser les pertes, de faire en sorte que la ville puisse être contrôlée assez rapidement. Mais je crois ici qu'on est dans l'illusion. Ça, c'est l'idéal. Il faut pas oublier qu'à Mossoul aujourd'hui, il y a environ 3, peut-être 4 000 combattants de l'État islamique. À peu près la même chose à Raqqa, dans l'ouest, sur le même théâtre. Donc finalement, dans une ville, plusieurs millions d'habitants, c'est assez modeste. Il faut pas oublier, mais ça, c'est l'histoire, que Mossoul a été une des villes irakiennes qui a le mieux accueilli l'État islamique. Pourquoi? Parce que ça faisait des années que les milices chiites et l'exécutif chiite tenait la ville, qui était mise en coupe réglée avec un niveau de corruption absolument dantesque. En réalité, ils ont accueilli à bras ouverts, disons qu'ils ont accueilli sans trop pleurer les gens de l'État islamique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Pierre-Jean Louisard l'a bien expliqué. Mossoul n'attend pas, ce que vient de dire Frédéric, les chiites à bras ouverts, les milices chiites qui aujourd'hui sont en train d'essayer d'entrer dans Mossoul avec des slogans, avec des cris de guerre. Il y a Hussein, qui sont des cris de guerre chiites. Donc en face, on ne les attend pas à bras ouverts. Ça va être très difficile, ça va être très long. Et effectivement, le piège, ça serait une guérilla urbaine incontrôlable.
Frédéric Ancel, qui fait preuve de plus de courage, d'abnégation dans ce combat face à Daesh?
Oh oui, c'est les Kurdes. Les Kurdes. Incontestablement. Les Kurdes, ça a été vrai d'ailleurs aussi en Syrie. Souvenez-vous du cauchemar et du martyr, mais victorieux finalement, de Kobané. Ça, c'était à la frontière turque. Si vous voulez, au nord de l'Irak, les Kurdes, dans les années 70, 80, 90, ont subi aussi des coups extrêmement durs, mais c'était à l'époque le dictateur irakien, arabe, donc irakien, Saddam Hussein. Et les Kurdes sont aujourd'hui de véritables combattants, très expérimentés. C'était pas le cas dans les années 60-70, et c'est eux qui, jusqu'à présent, ont fait le preuve de plus de vaillance.
Ce combattant kurde, justement, ce Peshmerga.
On doit être debout tout le temps. Vigilant jour et nuit, on est relevé toutes les deux heures, mais parfois on ne dort pas du tout quand il y a des combats.
Voilà ce combattant kurde, justement. Il y a une carte très intéressante dans votre livre, Olivier Zajac, introduction à l'analyse géopolitique, carte de la région justement, avec les différentes forces en présence. Il faut noter aussi l'engagement de ce qu'on appelle la division d'or, ce sont les troupes d'élite, les forces spéciales irakiennes, c'est-à-dire donc formées par les Américains, avant que les Américains s'en aillent. Plus ou moins, Olivier.
Et aujourd'hui aussi par les Iraniens.
Les Iraniens.
Obligé, voilà. le puzzle, on parle des Kurdes, ça nous renvoie au rôle de la Turquie, qui n'a pas envie que les Kurdes prennent trop de place, justement, dans cette reconquête.
On va y revenir à propos de la Syrie, et notamment de Raqqa aussi.
Et pour ces divisions, les Américains ont formé les Irakiens. Les Américains, ils sont là depuis longtemps en Irak, mais ceux qui les ont véritablement structurés aujourd'hui, en particulier du côté chiite, il y a une forte implication de l'Iran, avec une efficacité, avec une structuration, du point de vue opérationnel, du point de vue aussi des capacités militaire qui pèse, donc de nombreux acteurs avec des intérêts et des jeux divergents. C'est tout le problème de ce qui est en train de se passer aujourd'hui au nord de l'Irak.
Frédéric Ancel.
L'Iran qui ne perd pas un centime dans l'histoire, qui ne perd pas un homme, mais qui libère, à ses yeux en tout cas, la partie très importante d'un pays voisin qui est déjà majoritairement chiite, dont le pouvoir, de toute façon, n'en doutons pas un seul instant, sera chiite et donc pro-iranien. Le même Iran qui saigne littéralement aujourd'hui les finances de l'Arabie Saoudite au Yémen dans une guerre totalement foireuse, il faut le dire, de la part des Saoudiens, qui saignent d'autres monarchies sunnites, comme par exemple les Émirats Arabes Unis, qui eux ont des soldats au sol, et ça se passe pas très bien non plus au Yémen, et l'Iran qui a déjà réussi à sauver Bachar el-Assad. Tout ça sans dépenser à peu près quoi que ce soit.
Quel rôle joue la France dans cette bataille de Mossoul? Parce qu'on a appris cette semaine que la mission du porte-avions Charles de Gaulle a été prolongée d'un mois jusqu'au mois de décembre. Frédéric Ancel.
Tout à l'heure, je disais que la France est encore une grande puissance. Écoutez, aujourd'hui, il n'y a que 3, peut-être 4 pays au monde qui sont capables de faire ce que la France fait au Moyen-Orient et au Mali concomitamment. Et pour ce qui est seulement de l'Irak, j'indiquerai 2 points. L'artillerie française, avec notamment les canons César, je crois qu'il y en a 4 qui sont déployés, qui sont parmi les plus puissantes, la plus puissante artillerie au monde d'une part. D'autre part, nos rafales et nos super étendards. Il faut bien comprendre que nous avons sur place, outre le porte-avions, nous avons une base en Jordanie et une base permanente en tant qu'alliés aux Émirats Arabes Unis.
Olivier Zajac.
Oui, la France joue un rôle. On peut simplement observer, peut-être regretter pour certains, que si on compare le Mali et aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient, au Mali, on a effectivement des opérations militaires avec un très grand succès, et il y avait une stratégie politique, une stratégie de stabilisation, une stratégie d'implication des forces africaines. Et on le voit aujourd'hui au niveau de la formation, au niveau des processus de réconciliation. Au Moyen-Orient, on est présent, on agit, mais où est la stratégie de l'après? Prendre Mossoul, parfait. Demain, Raqqa, ça va prendre du temps. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Quel visage pour l'Irak? Quel visage pour la Syrie? Là, la France est présente, mais au niveau de la stratégie, pour l'instant, les choses ne sont pas claires. Et c'est une litote.
La France organise des conférences internationales pour l'après, mais finalement, pour dire quoi? Pour dessiner quoi? Pour écrire quoi?
C'est très positif d'être là, effectivement. Ouais. La France est une puissance, la France est influente, la France a un rôle à jouer, mais quelle est la mise en perspective sur le long terme? Là, véritablement, on a besoin de plus de structuration.
Géopolitique de la nation française, votre livre, Frédéric Ancel.
Oui, je dirais qu'au Mali, on est carrément prépondérant. Et d'ailleurs, on est bien devant les Américains qui, de toute façon, ne voulaient pas y aller. Et personne d'autre n'aurait pu y aller aussi vite pour sauver, il y a 3 ans, Bamako, et donc le Mali, et peut-être même donc l'intégralité du Sahel. Au Moyen-Orient, je rejoins ce qu'a dit Olivier, on n'est pas prépondérant. On est très important, notamment sur le plan militaire, sur le plan politique aussi, puisque Jean-Yves Le Drian, on l'a rappelé il y a un instant, il y a quelques jours de cela, a réuni à Paris, c'est lui, et c'est à Paris, hein, c'est pas à New York ou à Washington, les ministres de la coalition, mais la décision se fera avec notamment les acteurs locaux, et puis aussi avec les Russes et les Américains.
Alors, les témoignages des habitants libérés du joug de Daesh sont épouvantables. On parle d'exécution, de sévices, de viols, de monstruosités en tout genre, de brimades. Deux femmes yézidis, Nadia et Lamia, rescapées donc de persécutions de l'État islamique, ont reçu le prestigieux prix Sakharov des droits de l'homme du Parlement européen de Strasbourg. C'était jeudi. En 2014, elles avaient été enlevées, forcées à l'esclavage sexuel comme des centaines d'autres jeunes filles de leur communauté. Les yézidis, on les trouve principalement donc, dans le Kurdistan irakien.
Dans le Kurdistan irakien, dans le Jebel Sinjar également, historiquement. Une zone qui intéresse beaucoup de monde, à commencer par les Turcs aujourd'hui, parce que c'est une zone qui est stratégique au nord-ouest de l'Irak. Et ces yézidis, ça a été les victimes de tous les flux, reflux d'idéologie, d'intérêt, de pouvoir dans l'histoire.
Voilà, ça date pas uniquement de 2 ans.
Non, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une communauté qui est habituée à vivre à l'écart, à vivre parfois dans l'opprobre.
Ni arabes, ni musulmans, ils font vraiment figure de diable aux yeux de beaucoup.
Et d'adorateurs du diable, effectivement, du point de vue religieux. C'est une communauté, effectivement, qui souffre et qui est aujourd'hui déplacée, qui est un peu errante, mais qui tient à son inscription dans l'espace irakien. Donc c'est pas la communauté yézidi ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je crois qu'il y a vraiment une volonté de rester ancrée, et on les verra revenir dans un Irak dont la physionomie pour l'instant n'est pas claire, mais ils reviendront.
Ouais. D'où ce prix prestigieux. 3200 femmes seraient encore aux mains de l'État islamique. Les hommes ont tous été liquidés.
Mais c'est une politique de type génocidaire, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport onusien dès de 2014 sur l'Irak, dans l'espace irakien. Oui, alors la physionomie, Olivier a raison de dire qu'on ne sait pas ce que ce sera plus tard, et je ne suis pas prophète, mais je pense que l'Irak a vécu. Les frontières de l'Irak artificiellement créées par les Britanniques en 31, ça s'est terminé. C'est terminé parce que les gens sur place n'en veulent pas. Les chiites sont d'abord chiites, les kurdes sont d'abord kurdes, etc. Et on le voit bien avec les hésitations de plus de 2 ans pour aller essayer de récupérer Mossoul. Les yézidis, ils ont été et ils seront protégés par les Kurdes. Et politiquement, c'est intéressant pour les Kurdes, de montrer que ça aura été finalement, après la chute définitive de Daesh, les seuls à avoir sauvé les yézidis et les chrétiens.
Un mot, Olivier.
Oui, il faut pas oublier les chrétiens et les chrétiens d'Orient dans cette affaire. Ils ont souffert également, comme les yézidis, ils sont déplacés. Aujourd'hui, une des questions, c'est de permettre qu'ils puissent être à nouveau dans leur pays, pays
où ils ont précédé
l'islam de plusieurs siècles.
Leur village, leur ville, Karakoch notamment.
Il y a quelque chose là, effectivement, un vrai effort pour la communauté internationale de ce point de vue-là.
On va aller dans un instant dans le nord de la Syrie, mais simplement, on évoquait la bataille de Mossoul avec vous deux, Olivier Zajac, Frédéric Ancel. Bataille militaire, défi humanitaire aussi, l'idée de voir se dérouler une véritable guérilla urbaine, et vous en parliez tout à l'heure avec ces 1,5 million de civils qui se trouvent terrés donc à Mossoul, fait craindre un déplacement de population à grande échelle. Déjà 15 000 ont fui justement, avec des capacités limitées, puisqu'on nous annonce qu'à Mossoul, il n'y aurait que 60 000 places prêtes dans plusieurs camps. On en attend le double, le triple, Frédéric Ancel.
Écoutez, en France, on est 67 millions. Imaginez que un tiers des Français aient dû quitter en l'espace de 2 ans la France, leur pays, et qu'un autre tiers soit en train de errer dans des camps un peu partout dans le pays. Eh bien, vous avez aujourd'hui la physionomie non seulement de la Syrie, mais dans une moindre mesure
de l'Irak. L'Irak, c'est à peu près 3 millions de déplacés, donc la Syrie, c'est la moitié de la population.
Absolument. Alors,
une vingtaine de millions
qui, en droit international, s'inscrivent toujours dans les frontières de leur pays d'origine, alors que les réfugiés, eux, se trouvent à l'extérieur des frontières.
Et vous en parlez d'ailleurs, vous y consacrez un long moment, Olivier Zajac, dans Introduction à l'analyse géopolitique, la question des migrations. Et c'est le HCR qui révélait cette semaine qu'on a atteint un nombre de réfugiés record dans le monde. Fin 2015, 21 300 000 réfugiés. C'est plus qu'en 1945, plus qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est le challenge à venir, justement ?
C'est un des plus grands défis géopolitiques, politiques tout simplement, pour nous, pour l'Europe, mais pour le monde entier. Je rappelle, alors, il y a effectivement ce rappel du HCR, mais en juin de cette année, en 2016, on avait les derniers chiffres, plus de 60 millions de réfugiés dans le monde. Et sur ces 60 millions, aujourd'hui, il y a 3 ou 4 pays qui font à peu près la moitié de ces réfugiés. La Syrie, l'Irak, la Somalie, c'est-à-dire des conflits qui durent depuis plusieurs années. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que les réfugiés climatiques, les migrants économiques, etc. Il y a aussi une grande raison, qui sont les conflits. Des conflits qui durent, des conflits dont on n'arrive plus à trouver la clé, qu'on n'arrive plus à stabiliser. Ça entretient, effectivement, une turbulence. La plupart de ces réfugiés voudraient retourner chez eux. Il n'y a pas cette image d'un déferlement, etc. Ils voudraient retourner chez eux. C'est chez eux, leur culture, leur histoire, leur ancrage dans un territoire, un lieu, un espace. Mais effectivement, ces conflits qui durent ne leur permettent pas. Le grand enjeu, c'est effectivement stabilisation, réinvention peut-être, ou réarticulation de frontières qui permettraient à des minorités, à des groupes politiques organisés qui n'ont pas de représentation, de trouver cette représentation. Donc peut-être une modification des frontières. C'est pas tabou. Il faut peut-être y réfléchir. Et là, effectivement, on pourrait peut-être, non pas régler, mais au moins arriver à des chiffres qui seraient pas cataclysmiques du point de vue des réfugiés. Il y a un véritable chantier.
Les chiffres, réfléchissez à ce que je vais vous dire. Savez-vous qu'il y a seulement 11 pays dans le monde qui accueillent la moitié des réfugiés? La Turquie qui en accueille 2,5 millions, le Pakistan 1,6 million, et on en reparlera du Pakistan tout à l'heure, là, des réfugiés venus d'Afghanistan, plus le Liban, plus l'Iran, plus l'Éthiopie, venus de Somalie, plus la Jordanie. Encore un mot, Frédéric Ancel.
Oui, et n'oublions pas l'Afrique centrale, l'Afrique subsaharienne.
Le Kenya qui accueille le plus gros camp de réfugiés du monde.
Absolument. Le Kenya, l'Éthiopie, le Congo, avec ces guerres des Grands Lacs qui, dans les années 90 et 2000, ont provoqué plusieurs millions de tués et des millions de réfugiés.
Terrible aussi, ce chiffre révélé cette semaine toujours par le HCR, le nombre de migrants morts en Méditerranée depuis le début de l'année 2016, on en est à presque 3800 en nombre record, c'est-à-dire c'est déjà plus que l'ensemble de l'année 2015. Allez, la Syrie, on y revient bien sûr avec Alep, la trêve dite humanitaire, qui n'aura eu qu'un temps comme prévu, bien sûr, qui s'attendait à autre chose, malheureusement. Nouveaux affrontements, tirs d'artillerie, bombardements sur la partie est de la ville aux mains de groupes rebelles djihadistes. Bon, Frédéric Ancel, à qui la faute de cet échec?
C'est la faute à tout le monde. C'est la faute au rapport de force. Et vous savez, l'ONU, je le dis et je le répète en permanence, c'est le rapport de force entre 5 grandes puissances. Les autres comptent beaucoup moins, en réalité. Et si vous ne parvenez pas à vous entendre à 5, vous ne pouvez pas trouver un règlement. Il est inimaginable aujourd'hui de penser qu'on puisse arrêter, par exemple, je dis ça au hasard, bien sûr, les bombardements russes sur Alep. Ça n'a pas de sens de l'imaginer.
Alors justement, la Russie qui espère une victoire rapide à Alep, est-ce que c'est la Russie qui a bombardé une école de la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie? Une vingtaine d'enfants tués. Les images sont encore une fois indescriptibles, très difficiles. On a évidemment expurgé, si vous nous suivez à la télévision sur BFM Business, oui, vous n'aurez pas l'horreur, évidemment, en direct. Jean-Marc Ayrault, lui, il a son idée sur qui est responsable.
Nous venons d'assister encore, il y a quelques heures, au bombardement d'une école. Au moins 20 morts, des enfants, des innocents. Qui est responsable? En tout cas, ce n'est pas l'opposition qui est responsable, parce que pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les Syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les Russes.
Voilà, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, Ban Ki-moon, toujours secrétaire général de l'ONU, il exige une enquête, qui risque fort de se retrouver bloqué par un veto russe. La Russie, elle dit n'avoir rien à voir avec ce massacre. Olivier Zajac, qui est responsable? J'ai envie de dire, pour l'instant, attendons une certitude parmi les 300 000 morts en Syrie. Depuis plus de 5 ans maintenant de guerre, il y a énormément d'enfants.
Il y a énormément d'enfants, effectivement, énormément d'enfants, et pas seulement d'enfants victimes, d'enfants morts, mais également d'enfants qui ont été exposés à l'idéologie, à la propagande, à l'embrigadement, à la lobotomie, d'une certaine façon, en particulier de l'État islamique. On estime qu'il y a à peu près 2 millions d'enfants qui ont vraiment vécu directement dans cette idéologie. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir ensuite?
Quid de la reconstruction du pays? C'est l'avenir du pays. Bien sûr.
C'est eux qui seront les Irakiens, les Syriens demain, si tant est que Irak et Syrie aient encore un sens, du point de vue de l'appropriation politique, du sens. Mais ces enfants, ils ont été traumatisés, ils rejetteront cette idéologie, ou au contraire, ils l'épouseront, ils l'accepteront, et ils seront les combattants de demain. Ça serait une vraie question. Sur Alep, je dirais... Ça fait quand même 15-20 ans, on a eu beaucoup d'exemples de ce type de questionnement. Qui est responsable? Je crois qu'il faut savoir attendre, bien sûr constater que c'est inhumain, c'est insoutenable, bien évidemment, mais là tout le monde va être d'accord. Maintenant, qui est responsable? Je crois que les responsabilités, elles sont imbriquées, elles sont enchevêtrées. L'enquête, s'il y a enquête, dira qui est responsable de ce massacre-là. Mais pour ce massacre-là, combien d'autres où les responsabilités vont dans un sens, dans un autre? C'est extrêmement difficile. Je crois qu'il ne faut pas forcément toujours rentrer dans cette moralisation, punition, judiciarisation. Aujourd'hui, Frédéric le dit bien, on est dans un rapport de force. Et les réalités opérationnelles s'imposent également.
Alors, judiciarisation, tiens, Frédéric Ancel, un sujet que vous connaissez très bien, vous qui organisez régulièrement des assises du négationnisme, du révisionnisme, etc., autour de la justice internationale. Est-ce que les auteurs de ces massacres un jour passeront devant une cour pénale internationale? En tout cas, il y a plusieurs responsables africains qui dénoncent l'inaction de la procureure de la CPI en Syrie. Pourquoi les Africains? Parce qu'ils en ont un petit peu assez. Ils considèrent que cette CPI, elle est trop sélective. On a vu la Gambie, l'Afrique du Sud, le Burundi quitter cette cour. Est-ce qu'un jour, il y aura une action internationale devant la justice internationale de ce qui s'est passé en Syrie et en Irak?
Alors, deux points. Le premier est le suivant. Pour qu'il y ait justice internationale, il faut fondamentalement que le Conseil de sécurité, pardon d'y revenir et d'insister, le valide. Si ce n'est pas le cas, alors on n'ira pas très loin. En Afrique, ça a pu marcher dans les années 90 et 2000 parce que l'URSS était effondrée et les rapports de force étaient d'une nature moins idéologique. Et puis parfois, franchement, les Russes et les Chinois s'intéressaient pas beaucoup à l'époque à ce qui se passait en Afrique. On a pu donc condamner pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité des gens qui, ma foi, le méritaient. C'était en Afrique. Si vous n'avez pas avec vous l'intégralité de la volonté politique des membres permanents du Conseil de sécurité, donc je vous le disais, ça va être beaucoup plus difficile. Puis le deuxième point, tout de même, ces dernières décennies, sauf depuis la guerre civile en Syrie et en Irak, sauf depuis l'apparition de Daesh et de la guerre civile de manière générale, quand même, les grands crimes contre l'humanité, c'était, qu'on le veuille ou pas, sur le continent africain. Donc, et d'ailleurs, j'ajoute que des Africains ont jugé d'autres Africains. J'ai beaucoup travaillé, comme vous le savez, sur le Rwanda. Bon, eh bien, le tribunal pénal international d'Arusha a été, notamment, pas seulement, mais notamment, dirigé par des Africains qui ont condamné d'autres Africains, et c'était fort bien.
Avant qu'on s'intéresse au Pakistan, avant qu'on s'intéresse aux États-Unis, encore un tout petit mot. La bataille de Raqqa, la capitale administrative de l'État islamique, dans le nord de la Syrie, après Mossoul, ce sera probablement le tour de Raqqa. Question, qui va participer à la bataille? Tiens, Frédéric Ancel. Les IPG, disent les Américains. Les IPG, ce sont les milices syriennes, kurdes et les Turcs qui veulent aussi passer à la vitesse supérieure. Tout ce beau monde va se retrouver dans cette région. Ils se détestent.
Mais c'est pour ça que ça marchera très difficilement. Je suis par un faux paradoxe, je suis plus optimiste d'un point de vue militaire et politique d'ailleurs, quant à la libération de Mossoul qu'à celle de Raqqa. Raqqa c'est plus petit, et puis c'est la Syrie. Bon, mais en même temps, il n'y a pas aujourd'hui de conjonction favorable pour récupérer Raqqa. Il n'y a pas d'alliance qui tienne debout aujourd'hui sur Raqqa.
Olivier Zajac.
Raqqa c'est un objectif militaire, c'est également un objectif symbolique. C'est la capitale, c'est le centre aujourd'hui, même si le calife était à Mossoul. Il y avait véritablement quelque chose de très simple. Raqqa, ça sera, tout le monde va vouloir y être, et en particulier les Turcs. Monsieur Erdogan l'a rappelé, on fonce à Raqqa et la Turquie y sera de manière à imposer ou en tout cas favoriser sa vision des choses et du rapport de force dans cette zone.
7 jours dans le monde, on va retrouver Olivier Zajac, auteur de Introduction à l'analyse géopolitique, et Frédéric Ancel, co-auteur de Géopolitique de la Nation France avec Yves Lacoste. C'est dans un instant sur BFM Business.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
avec Frédéric Ancel qui signe avec Yves Lacoste, son maître en géopolitique de la nation France. Voilà, tiens, profitez justement et bien de l'heure d'hiver. Vous aurez un petit peu plus de temps pour lire tous ces livres. Frédéric Ancel et puis avec nous Olivier Zajac, introduction à l'analyse géopolitique. Voilà, je vous propose à chaque fois des livres simples, courts, très clair. Voilà, voilà pour prolonger évidemment la réflexion de cette émission 7 jours dans le monde sur BFM Business qui revient sur l'actu internationale de la semaine. Alors, le Pakistan à présent. Quetta, on est dans le sud-ouest du pays, tout près de la frontière afghane. C'est la capitale de la province du Baloutchistan. Presque 1 million d'habitants à Quetta. Attaque kamikaze en milieu de semaine de 3 terroristes lourdement armés en pleine nuit dans une école de police. Il y a eu plus de 60 morts.
Nous étions à l'étage en train de discuter avec des amis et tout d'un coup nous avons entendu des coups de feu. Ils ont tué le garde et nous avons entendu les gens crier. Nous sommes alors précipités sous les lits avant de bloquer la porte principale et d'éteindre les lumières.
Voilà, vous imaginez la terreur qu'il a vécu ce monsieur, en effet, donc dans cette enceinte de l'académie de police de Quetta, attentat revendiqué à la fois par des talibans, par l'État islamique. Frédéric Ancel, ça veut dire quoi que Daesh s'étend désormais à l'est, justement, de sa zone dont on a largement parlé depuis le début de 7 jours dans le monde, depuis le début de l'émission, on est en fief taliban?
Oui, mais il y a plus puissant que Daesh là-bas, il y a effectivement les talibans.
Les talibans.
Je rappelle pour la énième fois que les talibans, avant d'être des prétendus étudiants en théologie, ce sont des pachtounes. Le Pakistan n'est pas un État-nation. Je veux dire que c'est un État-nation reconnu comme tel, mais les représentations des différents secteurs de la population, car il faut toujours revenir aux représentations, ne sont pas celles d'un État-nation unifié à la française. On est d'abord pachtoun, on est d'abord balouche, on est d'abord hindi, etc. Et là, nous avons affaire à une région particulière, le Baloutchistan, qui est une région dont qui est touchée par des menées séparatistes très importantes. D'une part, d'autre part, qui est une région frontalière avec l'Iran, et donc un trafic absolument permanent, une contrebande entre les deux pays. Et puis, au Baloutchistan, vous avez, comme d'ailleurs dans d'autres parties du Pakistan, une minorité chiite. Importante, hein. Les chiites sont seulement 10%. Mais 10% de 200 millions d'habitants, ça fait beaucoup. Et depuis plusieurs années, les chiites, mais également des militants balouches indépendantistes, subissent ce genre d'attaque de la part des islamistes radicaux. Et les islamistes radicaux au Pakistan, c'est avant tout les talibans, c'est-à-dire les pachtounes, qui considèrent qu'ils ont un droit suprême à diriger non seulement l'essentiel du pays, du Pakistan, mais au-delà, l'Afghanistan. Hein. La ligne durant qui sépare le Pakistan et l'Afghanistan.
Là encore, nous suivons, on va remettre la carte, justement.
Là encore, les Britanniques l'avait assez artificiellement établi. Ça n'a jamais été reconnu par les pachtounes locaux.
Oui, alors c'est pas la première attaque contre Quetta. Déjà, donc c'est au mois d'août, il y a eu plus de 70 morts. Hein. On voit Daesh qui recrute au Pakistan. Tiens, on dit, Olivier Zajac, que Daesh recrute au Pakistan grâce à des anciens cadres des services secrets pakistanais. Le fameux ISI. Pas toujours très clair, ces gens-là, l'ISI. Notamment vis-à-vis d'Al-Qaïda à un moment. Alors maintenant, vis-à-vis de Daesh.
Il faut replacer, pour comprendre le rôle de l'ISI ou de l'ISI, des services secrets, effectivement, et de services secrets pakistanais, il faut toujours replacer les choses, et c'est intéressant du point de vue des profondeurs géopolitiques. Le Pakistan a toujours cherché, en Afghanistan en particulier, une profondeur géopolitique. Et l'ISI a joué un rôle de manipulation, de parrainage divers dans cette... C'est sa profondeur stratégique. Le Pakistan est un pays qui est relativement, qui n'a pas de profondeur par rapport à l'Inde. L'Inde, son frère ennemi, cette dialectique nucléaire, cette dialectique conventionnelle, des armées qui sont massées aux frontières des deux pays, le Pakistan a besoin de cette profondeur stratégique. Donc, ses services secrets ont manipulé, ont parrainé dans cette profondeur stratégique. Il en reste quelque chose. Ils ont joué avec le feu. D'autres les ont aidés. Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, pendant des années, de ce point de vue. Donc, bien évidemment, ces réseaux, ils fonctionnent encore, même si aujourd'hui, le gouvernement pakistanais, vis-à-vis de ces services, a un œil qui est peut-être plus distanciés, cherchent à garder la main. Ils sont moins indépendants, toujours autonomes, mais moins indépendants. Voilà.
Frédéric Ancel.
Oui, je rappellerai simplement que le Pakistan est officiellement une république islamique. Voilà. Et que le Pakistan s'est constitué en 1947 par opposition effectivement à l'Inde, perçue comme une espèce de patchwork de polythéistes ignobles, aux yeux en tout cas des islamistes, et même d'ailleurs de façon générale des musulmans très traditionnalistes du Pakistan. Le Pakistan, c'est le pays des purs, et on lutte à la fois contre les chiites, et contre l'Inde. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, les services secrets pakistanais, au fond, jouent bien sûr le Pakistan, mais au-delà de ça, joue le fer de lance du sunnisme dans le monde, allié bien évidemment aux Saoudiens depuis 1940 et quelques.
Et puis Olivier Zaget, qui est une donnée économique très importante aussi, hein, abordée quelque part par Frédéric il y a quelques instants, lorsqu'il dit que on est dans une région frontalière avec beaucoup de trafic, en effet, il y a beaucoup d'échanges. Hein. Le Baloutchistan, c'est une province extrêmement pauvre, province stratégique, justement, carrefour stratégique sur un futur axe voulu par la Chine, axe routier, axe énergétique entre l'ouest de la Chine, le Xinjiang, justement, en direction de la mer d'Arabie. Est-ce que certains n'ont pas voulu faire capoter quelque part cet énorme projet économique qui rapporterait sur lequel on a misé des dizaines de milliards de dollars?
Si les violences se concentrent aujourd'hui au Baloutchistan, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Cette province, vous le dites très bien, elle est stratégique pour le Pakistan. C'est effectivement dans le grand schéma de réarticulation des routes et des circulations en Eurasie. La Chine mise sur nouvelle route de la soie. On parle beaucoup du terrestre, ferroviaire, terrestre, mais également maritime. Ouais. La route de la soie dans l'histoire, c'est d'abord les échanges entre l'océan Indien et la Chine. Ça passe par le maritime. Deux ports ont été bâtis sur la côte du Baloutchistan, Gwadar, Hormara, avec des capitaux chinois. Il y a déjà plusieurs années, des ingénieurs chinois avaient été pris pour cible, avaient été tués là-bas. Ça continue. Là, on veut cibler effectivement une force du Pakistan, une capacité d'influence. Le Pakistan est un grand allié de la Chine. Il doit y avoir une grande route entre le Xinjiang, effectivement, et cette ouverture sur l'océan Indien, qui est des violences à Quetta, qui est des violences autour d'Hormara, de Gwadar, ça fragilise le Pakistan. Parce que qui dit insécurité, dit un mauvais business, d'une certaine façon. L'atmosphère n'y est pas, et ça gêne beaucoup le Pakistan, la Chine. Donc effectivement,
la Chine peut revoir à minima un peu ses projets de développement compte tenu de l'insécurité qu'il y a dans cette province. Est-ce que ça fait sourire aussi? Est-ce que ça réjouit l'Inde aussi, Frédéric Ancel?
Que ça réjouisse l'Inde, ça c'est une évidence, mais l'Inde qui, elle, a basculé à partir de 2005 du côté américain. L'Inde orpheline de l'alliance soviétique. Ou de la quasi-alliance, en tout cas, soviétique pendant toute la guerre froide, s'est mise du côté américain. Et les Américains, eux, ont assez largement lâché le Pakistan, considérant que c'était une planche pourrie, que de toute façon, un jour ou l'autre, les islamistes radicaux l'emporteraient. Et vous avez effectivement cette recomposition.
C'est juste un pays nucléaire, hein, on le rappelle.
Entre 100 et 200 têtes, a priori. Et le Pakistan, effectivement, aujourd'hui, est allié de la Chine, c'est tout à fait exact. Et je pense que pour les Chinois, c'est pas seulement tactique, c'est stratégique. Autrement dit, il en faudrait vraiment beaucoup, énormément d'insécurité. Il faudrait même, l'implosion du pays pour que les Chinois retirent leur bille. Hein. Si je peux me permettre, je pense que les Chinois, je ne suis pas prophète, mais je pense que les Chinois vont miser énormément sur le Pakistan dans les prochaines années, comme ils le font déjà ces derniers temps.
L'Afghanistan aussi, qui cherche à être moins dépendant du Pakistan, qui fait des clin d'œil à l'Inde. Certains responsables pakistanais y ont vu la main de l'Afghanistan dans cet attentat de Quetta. Vrai, faux, à votre avis? Un mot avant qu'on passe aux États-Unis, à la campagne électorale.
Oui, alors là, c'est difficile à évaluer. Si vous voulez, l'Afghanistan a déjà suffisamment de problèmes internes aujourd'hui. Se demander quelle va être la stabilisation de ce pays. Retour en force, retour offensif des talibans.
On a vu encore les assauts sur Kunduz, notamment.
Éclatement de ce pays. Je crois que l'Afghanistan est déjà suffisamment concentré sur ses problèmes. Il est peut-être un peu vain de partir dans ce genre de spéculation, à mon avis, hein, pour l'instant, étant donné les informations qu'on a.
Pays toujours pas stabilisé, 15 ans après le 11 septembre 2001, malgré l'intervention américaine, l'Afghanistan est toujours faible, Frédéric Ancel.
Faible de ses divisions absolument chroniques. Hein. S'il n'y a pas de conscience nationale, ou en tout cas faiblement pakistanaise, alors je peux vous dire qu'il n'y a pas du tout de conscience nationale afghane. Ça, c'est une certitude. Et alors, quand on dit les mains de l'Afghanistan, je crois que l'Afghanistan n'a pas de main. Je veux dire par là que c'est pas une puissance en réalité. Et chaque groupe, vous avez les Tadjiks, vous avez les Pashtuns, bien évidemment, très important. Vous avez les Hazaras chiites qui se rapprochent de l'Iran. Je vous rappelle qu'il y a des Hazaras chiites qui sont en train de se battre en Syrie, aux côtés de la coalition russo-chiite.
Tout juste, tout juste.
Vous voyez cette confessionnalisation de l'ensemble du Moyen-Orient qui aujourd'hui est un facteur...
Moyen-Orient et jusqu'en Asie centrale, bien entendu. Alors les États-Unis, un mot quand même, parce qu'évidemment on va largement reparler début novembre, dans un peu plus d'une semaine, eh bien on saura qui va diriger donc les États-Unis. On sera normalement fixé le 8 novembre. Donald Trump, à la traîne dans les sondages, il y croit malgré tout, et prédit une surprise. La surprise.
When we win... Quand nous gagnerons, votre voix se fera entendre dans les couloirs de Washington et dans le monde entier. Ce qui se passe est plus fort que le Brexit.
Bigger than Brexit. Alors face à Trump, Hillary Clinton, elle tenait jeudi un meeting commun avec qui? Avec la First Lady, Michelle Obama.
If people... Si les gens se posent encore la question, oui, Hillary Clinton est mon amie. Je suis ici parce qu'il n'y a aucun candidat plus qualifié, plus préparé que notre amie Hillary Clinton. Sérieusement, y a-t-il quelqu'un de plus inspirant que Michelle Obama ? Et peut-être en particulier pour moi, parce que je sais ce que c'est d'être première dame des États-Unis.
Alors, Olivier Zajec, Michelle Obama, c'est l'atout charme, l'atout cœur, l'atout popularité de Hillary Clinton, qui n'est pas quelqu'un de très très aimé, bien entendu, hein, on le sait, on le répète, elle sera probablement élue, mais par défaut peut-être.
Ça fait beaucoup d'élections par défaut dans le monde occidental depuis quelques années, on va dire. Et ça devient un peu dangereux. Ça devient un peu dangereux parce que le choix démocratique conscient, c'est quand même un facteur de stabilité dans le long terme. Et ça ne concerne pas seulement l'Afrique, la Syrie, on parle de tous ces pays ensemble depuis tout à l'heure. Ça concerne l'Europe, ça concerne les États-Unis, où les lignes de fracture, où les fragmentations sont en train de se multiplier. Alors effectivement, pour Hillary Clinton, c'est une bonne affaire, d'une certaine façon. Le soutien du couple Obama, les deux sont populaires. Je crois qu'Obama, aujourd'hui, c'est 52% encore d'opinion favorable
aux
États-Unis.
Très populaire. Rappelez-nous, en France... Pardon, non, j'allais dire une grossièreté. Allez-y. Continuez donc.
Donc 52%, effectivement, ça peut faire rêver un certain nombre de responsables français, pas seulement français. C'est un atout. C'est un atout pour elle, mais ça ne suffira pas à désarmer une certaine prévention, et là je suis gentil, de la part de l'électorat américain envers Hillary Clinton, la candidate de l'establishment, la candidate d'un certain nombre d'erreurs géopolitiques, une candidate perçue parfois comme va-t-en-guerre, la candidate du mainstream, qui a fait beaucoup d'erreurs du point de vue des relations internationales. Donc elle a encore... Il ne faut pas qu'elle lâche l'affaire, comme on dit, avant la fin, parce qu'il pourrait y avoir éventuellement rattrapage, surprise. Je crois que les jeux sont quasiment faits, mais effectivement Trump joue sur cette on vous prépare une élection déjà bouclée, on vous dit que vous êtes des nuls, on vous dit que vous êtes qu'on est des populistes, etc. Montrez-leur qu'on a tort. Effectivement, le Brexit, ça résonne et il est là dans la tactique électorale.
Le Brexit, mais... où en quelques heures tout a basculé, hein, on se couche à minuit, le Brexit échoue, on se réveille le lendemain matin
avec ce plaisir du peuple, au sens de voir la mine déconfite de l'establishment et des élites. Refaire le coup aux États-Unis, ça semble mal parti, mais c'est de bonne guerre pour lui.
Hein. Il reste encore, à peine 10 jours, oui, Frédéric Ancel, elle mène pour l'instant dans les sondages, elle a eu 69 ans mercredi, elle l'a dit, elle l'a répété, elle a d'ailleurs mis une photo de elle enfant en souhaitant bonne chance à la future présidente des États-Unis, c'est-à-dire elle. Elle mène dans la plupart des états pivots, ceux qui feront l'élection. C'est fait, elle y va ou pas? Ou il y a encore une incertitude? Voilà, comme le laisse entendre Trump.
Théoriquement, il y a toujours une incertitude, et d'ailleurs d'un point de vue démocratique, c'est positif qu'il y ait toujours une incertitude jusqu'à la fin, sinon c'est pas la peine de voter, et puis ça va démobiliser l'électorat. Mais quand vous regardez les swing states, ils sont là vraiment très favorables à Clinton. Or c'est ceux qui vont basculer, évidemment. Le noyau dur républicain va voter Trump, encore que l'establishment du parti républicain, et c'est un signe de bonne santé démocratique aux États-Unis, c'est quand même assez largement retiré de Trump du fait de ses dernières outrances.
Un mot, Olivier Zajac.
Oui, juste quelques chiffres. L'élection de 2000 aux États-Unis, c'était à peu près un cinquième de l'électorat qui appartenait aux minorités, latino, noir, etc.
George W. Hein.
Gore contre Bush, un cinquième de l'électorat, les minorités, etc. Aujourd'hui, c'est un tiers. L'un des enjeux pour les démocrates en particulier, c'est la mobilisation électorale de ce tiers de l'électorat, parce qu'ils se mobilisent moins que les blancs, en réalité. Mobilisation des blancs, 60%, mobilisation de cet électorat, moins forte. Ça va être un des enjeux pour Hillary Clinton.
Des chiffres très intéressants que nous rappelle Olivier Zajac. À suivre dans 7 jours dans le monde, les pleins pouvoirs pour Xi Jinping et puis l'Europe encore en panne, engluée dans des affaires wallonnes.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et on voyage dans 7 jours dans le monde, direction à présent la Chine avec la réunion annuelle du Parti communiste chinois, le 6e plénum, et la consécration, l'adoubement d'un homme de plus en plus puissant, Xi Jinping, à la fois chef du parti, président de la République, chef des armées et désormais avec un rôle central, voilà, je lis le communiqué du Parti communiste chinois, donc il lui est conféré au cœur du pouvoir chinois. Frédéric Ancel, jamais depuis Mao, un responsable chinois n'avait concentré autant de pouvoir. C'est le nouvel empereur, hein, Xi Jinping.
C'est vrai, c'est une forme. Et d'ailleurs, c'est intéressant le terme que vous utilisez, parce que aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que le Parti communiste chinois, qui n'a plus de communiste que le nom, enfin, ça fait rire tout le monde, c'est absolument pas communiste, en revanche, joue sur d'autres racines, et notamment des racines confucéennes, des racines impériales. C'est très intéressant. Il y a encore 40 ans, c'était inimaginable, c'était interdit, bon, de se référer à ça. Autrement dit, le basculement vers, au fond, une forme de nationalisme très traditionnel, avec donc le soutien des d'une forme de religiosité ou de spiritualité, on va dire ça comme ça, et puis des succès économiques. Alors attention, les succès économiques ils se tassent quand même, hein, c'est-à-dire que il reste encore 500 600 millions de personnes qui sont dans soit la pauvreté, soit la grande pauvreté, dans les campagnes, beaucoup de gens qui ne sont pas pauvres mais qui sont toujours paysans, qui voient de loin dans les villes la prospérité et qui aujourd'hui vont y accéder manifestement de façon beaucoup plus lente si la croissance se bloque à 5, 6, 7%.
6,3 pour l'instant, hein.
Voilà, c'est ça, oui, mais par rapport à 12 il y a quelques années, il y a 3-4 ans,
bien sûr.
Donc, et c'est pour ça que, me semble-t-il, aujourd'hui le président chinois joue et avec une vraie de façon très astucieuse sur autre chose que la simple vieille vulgate marxiste qui n'a plus aucune réalité sur le terrain.
Mais Olivier Zajac, qu'est-ce qu'il va faire de son pouvoir? Il y a une priorité qui est apparue lors de ce plénum du Parti communiste chinois, c'est la lutte contre la corruption qui est considérée comme étant le principal danger justement pour le parti, pour la survie du régime.
Il va falloir cibler les tigres et les mouches. C'est ce qu'a dit Xi Jinping. C'est-à-dire, on ne va pas seulement attraper les petits, les sans grades, ceux qui corrompent au petit niveau dans la société. On va aller chercher des grands responsables. Et on va les amener, enchaîner, on va les humilier devant la population.
Ouais.
C'est ce qu'il a déjà fait.
Sûr.
Et il continue.
Il y a eu 1 million de membres du Parti communiste chinois qui ont été sanctionnés à des divers...
1 million sur... 88 millions. Voilà. 88 millions, c'est le Parti communiste. Là aussi, ça fait rêver. Enfin, certains partis européens. 88 millions, mais ça ne suffit pas encore. Et finalement, si on regarde les pourcentages, c'est pas grand chose. La corruption ronge la Chine. C'est véritablement aujourd'hui un mal endémique. Il y a une plongée dans une société de consommation qui engendre une véritable frénésie. Pourquoi est-ce que la Chine relance justement, s'investit dans l'histoire, le disait Frédéric, l'histoire, la spiritualité, la sagesse, la philosophie, etc., confucéenne. Ça permet de stabiliser un peu les choses, de remettre des valeurs morales. On cherche une solution, parce que cette frénésie de consommation, finalement, la Chine aujourd'hui, c'est une Amérique de l'autre côté du Pacifique, avec la consommation, avec la richesse et avec un manque de profondeur humaine. Le régime s'en préoccupe, et pour le régime, c'est une véritable question. Il ne faut pas sous-estimer ça. Donc on cible les corrompus pour montrer qu'on prend en compte.
Peut-être aussi un peu pour éliminer ses rivaux, hein, Frédéric Ancel. Et puis, il joue aussi beaucoup sur les symboles. Hein, 1936-2016, hein, Xi Jinping qui mettait en avant donc le 80e anniversaire de cette longue marche, justement, face aux troupes nationalistes.
Hein. Absolument, juste avant Nankin. Car n'en doutez pas un seul instant, en 2017, la Chine va en faire beaucoup. Voilà. C'est parfaitement
comme elle en a fait des tonnes pour la capitulation des Japonais en 45.
Absolument.
Nankin, évidemment, c'est les massacres commis par les Japonais notamment. Donc
voilà. Et il faut rappeler, c'est pas du tout du galvaudage, surtout pas de ma part. Il faut rappeler que pour la Chine, Nankin est une sorte d'Auschwitz en quelque sorte. Ouais. Et ça s'est passé en 37. Et donc en 2017, il y aura effectivement beaucoup de choses là-dessus.
Bon, allez, on termine non pas avec des histoires belges, mais des histoires wallonnes. Wallon, accord finalement entre les différentes parties belges pour relancer, vous savez, ce fameux CETA, ce traité de libre-échange entre Canada et Union Européenne. Les Wallons qui redoutaient un côté un petit peu trop libéral, pas assez de contrôle sur l'application du traité. Monsieur Magnette, Paul Magnette, c'est le président de la Wallonie.
Mais si on a pris un peu de temps, c'est parce que je pense que ce qu'on a pu obtenir ici est important non seulement pour les Wallons, mais pour l'ensemble des Européens. C'est vraiment une question fondamentale, c'est la question de savoir de quel monde voulons-nous. Est-ce qu'on veut un monde avec des règles ou un monde sans règles? Nous voulons réguler ce marché, nous voulons pouvoir protéger les citoyens. C'est pour ça que nous nous sommes battus et je crois que ça en valait la peine puisque nous avons été entendus.
Voilà, Paul Magnette, président de la région Wallonie, donc avec un certain nombre d'avantages qu'il a pu glaner. La signature avec le Canada, elle pourra donc se faire, pas tout de suite certes, mais enfin en tout cas, elle n'est plus aussi donc compromise comme avant. Alors sans revenir évidemment sur les réserves du camp belge, quelles leçons on peut tirer justement, quelles traces ça va laisser? Est-ce que ce retard peut fragiliser une union déjà ébranlée par le Brexit. Allez, qui me dit un mot? Frédéric Ancel.
Non seulement ça fragilise le Royaume de Belgique, hein, dont on rappellera ces dernières années qu'il a failli à plusieurs reprises déjà se scinder, hein, avec un ras-le-bol des Flamands, notamment
vis-à-vis des Wallons. Les Flamands poussaient justement pour ce CETA, hein, bien sûr.
Et puis la fragilisation, effectivement, de l'Union européenne. Alors, sauf que, puisque finalement ça a marché, on va mettre au crédit, bien sûr, malgré tout, de cette espèce de démocratie poussée très loin, hein, de l'Union européenne, avec la possibilité pour les petits pays et pour des régions au sein des petits pays de se faire entendre. Hein. Donc, puisque ça a été réussi, je pense malgré tout que maintenant, ça va être vu plutôt comme une victoire.
Olivier Zajec, là, l'Europe jouait sa crédibilité. La résistance de la Wallonie a pu, une nouvelle fois, écorner quelque part l'Union ?
Elle l'est déjà beaucoup. Crédibilité. On n'est pas d'accord sur la Russie, on n'est pas d'accord sur l'Afrique, on n'est pas d'accord sur la Syrie, on n'est pas d'accord sur la crise des migrants. On est d'accord sur rien, de moins en moins. Cela dit, je ne vais pas m'inscrire dans le Wallonie bashing. Il pose des bonnes questions, Magnat. Je suis désolé. Il pose des bonnes questions sur
ils ont le droit de s'exprimer, bien sûr.
Enfin, les droits de douane aujourd'hui sont en moyenne à 5% dans le monde. C'est plus la question. C'est plus la question de la production, du passage, etc. Aujourd'hui, la question, ce sont les normes. Mmh. Les normes, elles touchent au mode de vie. Et je suis navré. Le déficit démocratique aujourd'hui en Europe, il est lié justement à un sentiment de non prise en compte de
qu'on passe par-dessus
des modes de vie. Bien Donc, sûr. Il pose des bonnes questions. Et attention, la Belgique, on est arrivé à un accord. Il faut que tous les parlements européens ratifie ce qui a été l'accord qui a été donné. Donc c'est pas terminé, c'est le début de l'histoire.
C'est le début, voilà.
Long et effectivement là, il y a eu une fragmentation.
En
il y
tout
aura
cas,
des,
ce
il y aura
que vous
débats.
Dites, hein, voilà, cette crainte de dérégulation générale, ça le tend pour les traités transatlantiques. Le TAFTA, il a du plomb dans l'aile, venu de France cette fois.
Il a, hein. il a véritablement du plomb dans l'aile. TTIP, TAFTA, il a du plomb dans l'aile. Et il y a de vraies questions là-dessous. C'est pas simplement les méchants protectionnistes contre les bons libéraux, Justin Trudeau qui vend très bien l'affaire. Il y avait véritablement des vraies questions, il faut y répondre.
Le mot de la fin, Frédéric Ancel.
Oui, c'est ça d'ailleurs, c'est pas innocent de constater que la France d'une part, la Wallonie d'autre part ont été effectivement en pointe contre ces traités, ou plus exactement en pointe en faveur de, allez, on va faire court, de plus de social. Hein, et ça c'est quelque chose de très important parce qu'effectivement avec la dérégularisation en Europe et dans le monde, il y a ce sentiment populiste montant sur la base de, on nous écoute pas.
Bon, allez, tout est dit dans Géopolitique de la Nation France, signé de Frédéric Ancel. Précipitez-vous. Voilà, une demi-heure de plus ce week-end pour le lire. C'est le livre qu'il a signé avec Yves Lacoste. Une demi-heure également pour Introduction à l'analyse géopolitique d'Olivier Zajec. Merci, on était content de vous recevoir. Olivier Zajec, qui est maître de conférence en sciences politiques à Lyon 3, enseignant à l'école de guerre. 7 jours dans le monde, c'est terminé. À bientôt.
BFM Business, 7 jours dans le monde.